Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est une grosse déception, une délusion.
Ce manque d'insuffisance qu'on a eu en supériorité numérique.
On va rester sur la progression par rapport à ce qu'ils ont fait dernièrement en championnat. Mais je pense qu'il faut être réaliste. Très très compliqué. Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
RMC, l'afterfoot.
Christophe Plenet.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'After. Joie immense de vous retrouver pour l'Afterfoot en direct sur RMC, en direct également sur Afterfoot TV et en direct sur la chaîne YouTube de l'After. Comme tous les soirs, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, horaire d'été. L'After désormais donc tout l'été de 20h à 22h et rediffusé ensuite de 22h à minuit. Comme d'habitude, le 32-16 est ouvert. On vous attend également sur le numéro WhatsApp de l'After, le 06 12 424 424. Titulaire ce soir, Kevin Diaz. Bonsoir Kevin, salut à tous. Et titulaire également, Maxime Chano. Salut Max.
Salut à tous.
Allez, le programme, il est riche, il est dense. L'Olympique de Marseille, les Phocéens viennent de battre 3 à l'Athletic Bilbao. Au Vélodrome, les hommes de Bruno Genesio ont clairement monté le curseur dans leur préparation à 15 jours désormais de l'ouverture du championnat. On démarrera par l'AS Monaco qui est allé s'imposer 3-2 à Anfield dans un match de prestige face à Liverpool. Au programme également, le Paris Saint-Germain qui a fait match nul hier un partout contre Manchester United et qui devra faire sans ses supporters lors du Trophée des Champions à Bordeaux. L'art, le couple collectif Ultra Paris a décidé en effet de boycotter cette rencontre. On reviendra bien sûr sur le début du championnat de France de Ligue 2 hier. L'AS Saint-Etienne a déjà envoyé un signe fort. Les Verts vont-ils marcher sur le championnat? Un championnat de Ligue 2 qui n'a jamais été aussi dense. Et relever le Real Madrid du Mourinho, une grosse info Mbappé, tout ça et plus encore, c'est dans l'After et c'est tout de suite. Kevin, Max, on démarre cet after-foot par l'AS Monaco qui a dominé cet après-midi Liverpool 3-2 à Anfield en amical après avoir compté 2 buts de retard. Valentin Jamin a commenté cette rencontre dans l'Intégral Sport cet après-midi sur RMC. Bonsoir Valentin.
Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous.
Salut Valentin.
Alors raconte-nous ce match de préparation et de prestige Val.
Bon déjà, victoire 3-2 de Monaco, donc le score est prestigieux, tu as raison, c'était à Anfield, dans un stade plein, alors je pense plein, avec beaucoup de touristes quand même, mais Monaco donc s'est imposé pour le premier match de son stage en Angleterre à St George's Park, le Clairefontaine anglais. Sur le contenu, objectivement, c'est assez flatteur de voir Monaco s'imposer sur ce match. Pourquoi ? Parce que Monaco a été mené assez vite, il y avait 2-0 à la demi-heure de jeu, et franchement, il n'y avait rien à dire, les Monégasques qui étaient en 4-4-2, face à une équipe de Liverpool après qui était assez compétitive, hein. Il y avait les retours de Alisson dans la cage, de Van Dijk, il y avait Frimpong, le milieu de terrain avec Szoboszlai, Gravenberch, etc. Mais franchement, ils ont été dépassés pendant quasiment une mi-temps. Il y avait, je crois, 11 tirs pour Monaco à la demi-heure, 14 à la pause. Et donc, moi, c'est plutôt ce que je retiendrai, malheureusement, pour les Monégasques de la première période, c'est qu'ils ont été dominés. Parce qu'en fait, après, je trouve que c'est plus difficile à analyser. Ils changent de gardien à la mi-temps, les Reds. Et à l'heure de jeu, on sort tout le monde, en fait. Et c'est à peu près là que Monaco s'est réveillé. Donc après, il y a eu le caractère. On a fait rentrer des jeunes également qui ont performé. Et c'est bien d'aller chercher la victoire dans ce match amical. Mais je trouve que c'est un peu dur à analyser. Et je pense qu'il ne faut pas prendre le résultat brut. On peut applaudir encore une fois la victoire et le caractère, mais moi j'ai pas aimé la première période.
Mais ça ressemble ni plus ni moins à tous les matchs amicaux en règle générale. Tu sais que les 45 premières minutes, c'est vrai que plus en plus t'approches finalement du début du championnat où est-ce que les équipes, en tout cas les clubs mettre leur 11 titulaires. Là, ça a été le cas avec Liverpool. C'est vrai que Iraola avait mis un peu son 11 très fort, on va dire, hein, dès le début. Et puis après, justement, il y a ce penalty là qui a été récupéré et qui a été transformé par Golovin. Mais à part ça, la première mi-temps, enfin, clairement, Liverpool était largement au-dessus de Monaco. Et c'est la raison pour laquelle je disais un peu plus tôt, je sais pas si tu peux tirer des enseignements finalement d'un match comme celui-ci, parce qu'à partir du moment que Iraola, l'entraîneur Liverpool, décide de faire changer la moitié de ses joueurs, bon, derrière, t'as compris que c'était un tout autre match.
Et 6 changements à l'heure de jeu.
Exactement. Donc, mais ça ressemble, et on va revenir un peu plus tard sur le match entre l'Olympique de Marseille et Bilbao. Je sais pas si tu peux vraiment tirer des enseignements à chaque fois des matchs amicaux. En tout cas, là, clairement, sur la première mi-temps, Liverpool était largement au-dessus de Monaco. Il y a pas photo. Après, moi, j'ai aimé la deuxième mi-temps. J'ai trouvé qu'il y avait quelques jeunes qui sont bien rentrés, voilà, qui ont fait un peu la différence.
Le petit Konaté,
notamment, qui a été bon. Je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois, pour répéter ce que j'ai dit un peu plus tôt, est-ce que tu peux vraiment tirer des enseignements? entre Monaco et Liverpool, enfin clairement là c'est je te dis
parce
c'est
que tu peux tirer quand même quoi. C'est que si tu pars avec une charnière d'ailleurs Sané, ça va être dur je pense,
ça, tu l'as
parce
compris que depuis longtemps que d'ailleurs voilà, je pense que c'était compliqué pour lui.
On attend peut-être que Zakaria revienne, on va voir. Et même au milieu, bon après c'est des bons joueurs, Cabral et Camara, si Camara reste, mais même je trouve que dans l'axe ils sont pas mal fait transpercer.
Bah non, je suis d'accord avec toi. Après quand tu regardes, si tu remets un peu dans le contexte le projet de Monaco, ils sont carrément sur un nouveau cycle. Donc est-ce que c'est vraiment dommageable cette défaite contre Liverpool, enfin cette victoire pardon, mais enfin cette défaite sur la première mi-temps contre Liverpool, je ne pense pas. Hein, on l'a dit, mais ils sont sur un tout nouveau cycle. Hein. Exit Pocognoli, l'arrivée d'un nouvel entraîneur. D'ailleurs, ils ont énormément vendu aussi Monaco, hein, faut pas oublier. Donc voilà, je pense qu'il va avoir des automatismes à trouver, et c'est la raison pour laquelle je pense pas qu'il faut s'alarmer sur cette première mi-temps, parce que je le répète, mais la deuxième mi-temps, finalement, c'est un peu anecdotique à partir du moment qui Raoul, l'entraîneur Liverpool, avait fait tourner comme il a fait.
Le premier match de préparation va rapidement arriver, hein, ce barrage de Ligue Europa Conférence. Kevin, est-ce que tu as été séduit quand même par la performance de l'équipe de Philippe Luis, le Brésilien, et un petit mot sur l'ancien coach du Flamengo?
Après Philippe Luis, bon bah on l'avait vu pendant cette Coupe du Monde des clubs avec son le plus grand club brésilien, hein, je pense, voire même un des plus grands clubs sud-américains. Donc il a fait du bon travail. Maintenant il débarque à l'AS Monaco. Maintenant moi tous les étés j'ai coutume de dire que l'AS Monaco j'attends de voir parce que c'est quand même un club très très particulier à analyser. C'est un très beau club avec un endroit extraordinaire avec des belles installations, mais il y a tellement peu de certitudes que c'est très compliqué. Après, concernant le match d'aujourd'hui, comme a dit Max, les matchs amicaux, à partir du moment où tu prends une danse en première mi-temps face au titulaire de Liverpool et que derrière tu joues contre les remplaçants et tu arrives à revenir dans le match, pour moi il y a peu d'importance, à part qu'il y a des jeunes de qualité à Monaco, mais ça c'est pas une trouvaille. Donc moi j'attache très peu d'importance aux matchs amicaux des équipes professionnelles à ce moment-là de la saison, quand c'est le dernier match, l'avant-dernier match, là on peut commencer à regarder, mais il faut voir quelles équipes sont alignées. Pour l'OM c'est pareil, même si c'est toujours bien, ça rassure un peu et ça peut permettre une belle campagne des matchs amicaux, ça peut permettre quand même d'emmagasiner un peu de confiance, surtout les buteurs qui marquent des buts, un Paixão là qui marque avec Marseille, ça permet forcément de bien démarrer ta saison et d'arriver avec le maximum de confiance. Après faut pas se trouver sur le premier match.
Ouais non, je suis d'accord avec toi. Après pour revenir par rapport au match de Monaco, on l'a dit, hein, y a pas énormément d'enseignements à tirer, mais c'est vrai que par rapport à cette seconde période où est-ce qu'on a vu pas mal de jeunes, parce que t'as énormément de départs, on l'a dit, hein, tu perds Adingra et Woodface qui rentrent en prêt, derrière t'as Caio Henrique qui a été vendu, d'ailleurs très bien vendu au passage, Kassou Ouattara aussi au Beşiktaş, tu vas perdre Akliouche, donc tu sais très bien que Monaco va avoir justement besoin des jeunes joueurs, et c'est vrai que ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, hein, tu l'as dit, moi j'ai beaucoup aimé le petit Oumar Konaté, je l'ai trouvé super vif, intenable presque, un Brunner aussi qui a été intéressant, un Soubert, même un Koulibaly qui a été intéressant, donc c'est vrai que dans la mesure où on a parlé d'un nouveau cycle à Monaco, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir voilà des jeunes qui se montrent, qui n'ont pas peur, et puis dans un contexte quand même économique très difficile, hein, en règle générale en Ligue 1, et Monaco est évidemment pas à l'abri de tout ça, c'est vrai que d'avoir des jeunes qui sortent de centres de formation, des jeunes qui vont forcément prendre de l'expérience et peut-être devenir des plus-values, en tout cas des valeurs intéressantes d'un point de vue financier pour Monaco, c'est forcément de bonne augure.
Et juste tout ça sans Balogun, bon il a fait des tours de terrain avec Fatih et Pogba avant le match, mais alors on sait qu'il est aussi potentiellement sur le départ, donc est-ce qu'il était en méforme, est-ce que aussi on prépare peut-être le départ de Balogun? Et Lamine Camara aussi est très convoité, donc ça peut encore bouger sur le rocher.
Pogba, des petits pépins physiques de nouveau, Valentin, c'est bien
ça. Oui, alors Maxime Thiette, notre correspondant, me disait qu'en fait, dès qu'il fait des efforts, ça gonfle un petit peu autour de son genou. Lui est attendu peut-être dans la semaine pour éventuellement avoir un peu de temps de jeu face à Coventry lors du dernier match amical. Et Fatih, il faudra peut-être attendre la reprise de la Ligue 1. Balogun, du coup, faut voir un petit peu la situation.
Ça sent mauvais pour Pogba. Hein.
Ça sent pas très bon depuis un petit moment. Le premier match officiel, ce barrage, Valentin, ce sera ma dernière question et je te libère car t'as eu une grosse journée.
20 août,
c'est ça.
20 août contre soit Ferencváros, le club hongrois, soit Zabrze, le club polonais, en barrage de Ligue Europa Conférence. J'ai pas l'accent polonais.
En sachant que les Hongrois se sont imposés 1-0 à l'aller, match retour en Pologne jeudi prochain. Contre le Górnik Zabrze.
Ah, c'est une bonne question.
Je crois que je sais pas, c'est pas le club de Lukas Podolski.
On va regarder ça, Kevin. Merci beaucoup, Valentin. Faudra être prêt donc le 20 août, Kevin et Maxime. Faudra être prêt également très vite, hein, car le championnat va démarrer le 23 août prochain. Il y aura un déplacement au stade Océane pour affronter le Havre. Deuxième journée à Louis II, AS Monaco, Olympique de Marseille. Troisième journée, Parc des Princes, Paris Saint-Germain, AS Monaco. faudra être prêt.
Non, mais de toute façon, faut être prêt, même si tu joues contre Lorient ou contre une plus petite équipe. Hein. Aujourd'hui, quand tu démarres un championnat, peu importe lequel, il faut être prêt. Alors, tu sais qu'il y a des équipes qui vont monter en puissance. Il y a peut-être des joueurs qui seront pas, notamment pour les clubs professionnels comme l'AS Monaco, qui ont des internationaux, qui ont des préparations un petit peu décalées, mais. Mais de toute façon, c'est toujours important de bien démarrer un championnat et surtout d'être prêt physiquement, de pas avoir de blessés. Ça, c'est vraiment le plus important. Ne pas avoir de blessés. Bon, là, tu sais qu'un joueur comme Pogba, c'est fragile, c'est dommage qu'il n'ait pas pu réussir à faire une préparation complète sans avoir des pépins, parce que ça aurait pu vraiment lui permettre de se lancer. Mais sinon, comme on l'a dit, de toute façon, l'AS Monaco, ils sont dans
c'est un nouveau projet, c'est un nouveau cycle.
Oui, mais tous les ans, c'est un nouveau cycle.
Ouais, non.
Donc, ils sont dans un éternel recommencement, comme dit le fameux jingle, et dans un éternel reprouvement, même, je dirais.
What an accent!
et le truc, c'est que quand tu analyses l'AS Monaco tous les étés, hein, c'est un peu mon cas ou c'est un peu notre cas, tu te dis toujours qu'il y a des promesses, il y a Blin qui a signé, mais tu as aussi souvent des départs. Alors là, tu viens d'avoir avec Liouche, tu vas peut-être avoir
justement,
Goud,
justement
et ça,
ouais.
Et ça, c'est quand même toujours très difficile.
On parle éventuellement de l'Algérie. Fares Guedjemis hein, pour succéder à Marnès Akliouche qui a signé au Paris Saint-Germain pour 50 millions. Maxime, tu parlais des départs. Le principal, c'est bien sûr celui de l'international français. C'est un bon coup pour Paris, c'est sûr, mais c'est une grosse perte pour l'AS Monaco.
C'est une grosse perte. Après, il représentait une valeur marchande importante, hein, je le répète, mais quand tu regardes un petit peu l'aspect économique de ces clubs de Ligue 1 par le Paris Saint-Germain, je pense que beaucoup de clubs ont besoin de vendre et bien évidemment, Akliouche avait une valeur marchande intéressante pour Monaco. Donc, c'est somme toute logique en tout cas de le voir partir, d'autant plus qu'il est devenu international, en tout cas qu'il est parti à la Coupe du Monde avec cette équipe de France, donc c'était même le bon moment pour le vendre. Ça va être une grosse perte en effet pour l'AS Monaco. Moi c'est vraiment le projet global qui m'inquiète un petit peu hein, côté Monaco. Je te dis, je sais pas si j'aurais forcément renvoyé Pocognoli, je lui aurais laissé peut-être une pré-saison supplémentaire et une saison supplémentaire. Faut pas oublier que c'était un entraîneur qui ne connaissait pas la Ligue 1, à part sur les 5 derniers matchs où, de la saison dernière où est-ce que Monaco s'est complètement effondré. J'ai trouvé que c'était malgré tout cohérent, voilà. Donc je lui aurais peut-être laissé une saison supplémentaire. Maintenant, en effet, ils ont décidé de ramener un nouvel entraîneur qui a fait ses preuves du côté de Flamengo, en tout cas au Brésil et notamment sur la Coupe du Monde des clubs. On l'a dit, ils avaient eu des très bons résultats. Jeune entraîneur, c'est toujours un pari et ça, pour moi, c'est un petit peu risqué. Et pour terminer, par rapport aux ventes de l'AS Monaco, je pense qu'encore une fois, il y a eu énormément de mouvements. J'attends de voir et pour rebondir très rapidement aussi sur l'anecdote, en tout cas en parlant des matchs amicaux qui sont juste anecdotiques. Finalement, l'équipe qui a commencé sera sûrement pas celle qui débutera en tout cas le premier match de championnat. Donc, il faut rester patient. C'est pas parce que forcément tu n'as pas énormément d'arrivées, de transferts rentrants qu'il faut s'inquiéter. Voilà, on va voir ce que ça va donner côté Monaco. Moi, je suis toujours un petit peu inquiet sur ce projet-là. On va voir.
Coventry, donc, dernier match de préparation. Et il y aura ce barrage, donc, soit face à Ferencváros, le club hongrois, soit le club polonais du Górnik Zabrze. Le club, Kevin, tu as raison, de Lukasz Podolski. Tu es parfait. On accueille tout de suite Yaya, qui a composé le 32-16, supporter de l'ASM. Salut Yaya.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien.
On est en pleine forme. Est-ce que tu as pu regarder ce match face à Liverpool et quels enseignements tu tires de cette victoire à Anfield?
Ah oui, j'ai pu regarder ce match. On avait bien débuté le match, mais quand Liverpool, ils vont très 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 vite, ça se ressent. Au milieu, on n'avait pas ce bloc, donc ça veut dire que Liverpool pouvait faire un peu ce qu'il voulait. En seconde période, ça a été nettement mieux, surtout avec les entrées des jeunes, tu vois, apporter une autre énergie et ils ont réussi à remonter et à gagner ce match par la suite.
Tu attends quoi de la saison de l'AS Monaco avec un nouveau coach, donc Philippe et Louis, on l'a dit, beaucoup de départs, des arrivées, on repart sur un nouveau cycle. Quelles sont tes attentes pour cette saison, Yaya?
Ben, mes attentes, moi j'espère qu'on va gratter un petit top 3. Et
c'est ambitieux.
Pas, oui, mais bon, quand on voit certaines équipes qui n'arrivent pas à recruter ou se donner du 109, on se dit pourquoi pas.
Oui, mais c'est vrai.
Ça va être compliqué, mais c'est tout à fait possible. Bon, après le PSG saute dans un autre truc. ça faut pas trop calculer, mais je pense qu'on peut aller chercher quand même un top 3, même si il y a Marseille, il y a Lyon, il y a
justement t'as Marseille qui est dans une situation un petit peu compliquée, on va j'imagine y revenir un peu plus tard, t'as Lille qui a changé d'entraîneur et qui avait quand même des départs importants, Chancel Mbemba, Mandy, Meunier, enfin beaucoup d'expérience avec un tout nouvel entraîneur Ancelotti qu'on connaît pas vraiment. Donc finalement, c'est vrai que ça laisse peut-être la chance à Monaco de pouvoir exister dans ce championnat. Maintenant, on l'a dit un peu plus tôt, mais quand tu regardes tous les départs qui n'ont pas été encore compensés, alors on est très tôt encore dans ce mercato, il reste encore 3 semaines, mais c'est vrai que la 3e place, à voir, il faut être optimiste. La
Ligue des Champions. Il y a un mercato qui est toujours en cours. Monaco, ils sont sur des dossiers, mais après, il y a aussi côté départ où il y a encore des choses à faire. Par exemple, un Camara, c'est pas sûr de rester. Un Balogun, il a des courtisans. Il faut remplacer les partants le plus vite parce qu'il y a des barrages qui arrivent et il faut bien débuter aussi le championnat.
Merci beaucoup Yaya d'avoir composé le 32-16. On te souhaite une très bonne saison et une bonne saison à l'AS Monaco. Donc Yaya voit le podium pour l'ASM. La Ligue des Champions et le podium, ça peut paraître compliqué, mais à minima, c'est la Ligue Europa. Hein. Monaco va jouer un barrage pour se qualifier en Ligue Europa Conférence. C'est dingue de dire ça.
Non mais c'est fou. Mais l'AS Monaco, tous les ans, ils doivent jouer le podium de toute façon. Après, le jouer, c'est pas forcément un scandale si tu l'as pas. Mais tu dois jouer quand t'es l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, le LOSC, aujourd'hui Lens. L'objectif, c'est de finir dans les 4 premiers. Le podium, si possible, ça t'assure une place en Ligue des Champions. Après, il y a que 3 places et demie. Donc tu sais que tout le monde n'atteindra pas l'objectif, mais l'objectif, ça reste quand même d'être européen. Moi, le seul souci que j'ai avec les objectifs des clubs français, mais je les comprends, si j'étais à leur place, ce serait pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un objectif qui n'est pas sportif. C'est un objectif qui est financier. En fait, les clubs français doivent finir européens pour équilibrer les comptes ou pour les aider à équilibrer les comptes. Et ça, c'est quand même très triste. Et l'AS Monaco fait partie de ces clubs qui, aujourd'hui, ne participent aux compétitions nationales ou internationales que pour équilibrer les comptes et pour arriver à vendre des joueurs pour gagner de l'argent ou pour au moins ne pas en perdre. Et c'est quand même un football qui a vraiment changé. Quand Kylian Mbappé disait que le football, il a changé. En tout cas, le football, il a changé dans cet aspect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part le Paris Saint-Germain, tous les clubs français veulent être européens, non pas pour jouer la Coupe d'Europe, mais pour équilibrer leur compte avant le sportif. Ça, c'est quand même un souci.
Pas beaucoup d'enseignements à tirer, donc des matchs amicaux. Pourtant, on a coutume de dire, on joue comme on s'entraîne. J'imagine qu'on joue des matchs officiels comme on joue des matchs amicaux.
Non, mais après, ça dépend.
Vous n'aimiez pas ça, les garçons?
Non, ça jouer des matchs amicaux. Beaucoup les matchs amicaux.
Ah ouais.
Je veux dire que ça permettait de rentrer dedans, ça permettait, il n'y a pas trop de pression, mais tu crées des automatismes, tu montres aussi au staff que t'es là et que t'es présent et que t'es soit dans la concurrence, soit qu'il va pas falloir venir te chercher. Ça sert aussi à ça. Maintenant, en fonction du temps de jeu, tu peux gagner tous tes matchs amicaux et rater ton début de saison et inversement, ça peut être aussi possible.
Et puis encore une fois, hein, on l'a dit un peu plus tôt, mais l'équipe qui joue ce match amical, par exemple, Monaco contre Liverpool, ne sera sûrement pas la même sur les premiers matchs de Ligue 1 parce qu'il risque d'avoir encore des partants et des rentrants dans l'effectif monégasque. Mais moi je sais que j'aimais vraiment pas les matchs amicaux, ça m'ennuyait, j'attendais impatiemment entre guillemets le premier match de championnat. Après ça fait partie du jeu,
hein, mais t'as des défenseurs centrales.
Je m'ennuyais
les défenseurs centraux, ils sont là juste pour vous êtes là pour défendre, nous on est joueurs offensifs.
T'as un peu plus de liberté, c'est vrai que
t'as un peu
moins de pression, mais bon, c'est la même pour nous derrière.
En gros vous êtes un peu punching ball dans les matchs amicaux, des fois il n'y a pas de tactique,
c'est ce que tu veux dire quoi.
En même temps, le défenseur central,
très bien.
Il faut mettre des coups et mettre des têtes.
J'adore qu'on s'achante.
Kevin
Diaz, ça fait un an qu'il se moque de moi.
Pas du tout.
Ah, d'accord.
Je parle des défenseurs centraux. C'est sûr que vous, les matchs amicaux, à part envoyer des grandes chamines devant.
On va en rester là, les garçons. L'AS Monaco qui sera jugé sur son début de saison avec un premier match officiel, on l'a dit, le 20 août prochain. Barrage aller de la Ligue Europa Conférence face aux Polonais du Górnik Zabrze ou les Hongrois de Ferencváros, et puis le début du championnat, le Havre en Normandie au stade Océane, la réception de l'OM à Louis II et un déplacement au parc face au Paris Saint-Germain. Une petite respiration dans l'after et on part sur la Canebière. On va parler de l'Olympique de Marseille, supporter de l'OM. N'hésitez pas à composer le 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Christophe Plenet.
Avec Kevin Diaz, avec Maxime Chiano qui n'arrête pas de se chamailler. On vient de parler de l'AS Monaco. On va parler à présent de l'Olympique de Marseille, cinquième la saison dernière. L'OM a finalement accroché un strapontin pour la Coupe d'Europe, mais pas celle forcément escomptée. Ce sera en effet la Ligue Europa et non la Ligue des Champions. En ce qui concerne la préparation, une défaite 3-0 contre Nice pour démarrer cette prépa. Un succès 2-1 contre Nîmes, puis 3-0 contre Al-Shahania. Aujourd'hui, les Phocéens affrontaient les Basques de l'Athletic Bilbao. Ça se passait au Vélodrome, un premier gros test où était pour nous Maxime Tilliette. Salut Max.
Salut Christophe, salut Kevin, bonsoir à tous, salut Max aussi.
Salut. Salut
Max. Alors Max, victoire 3-1 de l'OM, tu es sur place. Raconte-nous un petit peu comment s'est passé ce match face aux Basques.
Moi, une performance plutôt convaincante, hein, très honnêtement, parce que voilà, retour au Vélodrome, la première au Vélodrome pour un Bruno Genesio sous les couleurs de l'OM, avec, on le sait, cette cure d'austérité et les départs que ça implique, que ça suscite. Il y en a qui sont déjà actés, d'autres qui sont en train d'être finalisés. On pense notamment à Naïef Aguerd qui n'était pas sur la feuille de match, mais malgré tout, avec les retours des internationaux, des mondialistes, je pense à Timothy Weah, à Cornelius, enfin voilà. Il y avait une équipe qui commençait à avoir un peu plus d'allure. Amine Gouiri titularisé en pointe. Le tout disposé en 4-3-3 avec Højbjerg qui portait le brassard malgré la présence de Leonardo Balerdi. Au milieu de terrain, il avait avec lui Imad Abdelli et un cran plus haut Angel Gomez, auteur du premier but. Et puis donc devant un trio avec Amine Harit et Peixão dans les couloirs. Gouiri en pointe, un Gouiri très mobile, ouais. Qui n'est pas encore totalement à 100%, je pense physiquement, mais aussi dans ses repères parce qu'il est un petit peu vendangé. C'est sur la première période qui est plutôt rassurante du côté olympien. C'est le seul qui était un petit peu en dessous, on va dire. Je remonte de la zone mixte. Honnêtement, j'ai ressenti du soulagement. Alors pas d'effusion de joie non plus, mais du soulagement parce que c'était un vrai premier test. Et aussi bien Bruno Genesio que Tajidin Madi nous l'ont dit en zone mixte. Voilà, ce cinquième match de préparation, c'était un cran au-dessus dans l'adversité par rapport aux adversaires précédents, sans leur faire offense. Alors il y avait Nice qui avait gagné 3-0 à la Commanderie en tout début de préparation. Il y a eu des victoires aussi face à Yamoussoukro, face à Nîmes, mercredi face à Al-Shania. Donc c'est là on est passé face à l'étage de dessus, face à l'Athletic Bilbao, et pour le coup l'OM a répondu présent, a réussi à séduire ses supporters, parce qu'on sait que si ça tourne mal, ça peut se retourner contre eux. Alors peut-être pas dès cet après-midi, même s'il n'y a pas si longtemps que ça, on se souvient la première d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, il avait eu droit à des sifflets pour un match de préparation estival dans les mêmes conditions ici. Donc voilà, là pour le coup les Marseillais ont fait le job aujourd'hui et devront le faire encore une fois vendredi face à un nouvel adversaire de Liga, et en l'occurrence l'Atlético Madrid.
Les sifflets, c'était pas pour le premier match du championnat?
Non, c'était sur un match de préparation. Okay.
En tout cas, là, ouais, les Marseillais, ils auraient pu être présents sur le terrain et même sur en dehors, hein, parce qu'il y avait pas mal de monde. Hein. J'étais surpris
45 000,
de voir le stade Vélodrome aussi rempli. Donc ça.
C'est moins que l'an dernier, hein, Maxime nous le disait dans l'intégral sport.
C'est vrai que c'est quand même beau de voir autant de passion, on le connaît, hein, du côté de la Canebière, mais c'est vrai que c'était top de voir un stade Vélodrome presque rempli, en tout cas. Après, moi, j'ai trouvé la première mi-temps pas mal. Hein. J'étais agréablement surpris. Bon, alors, il faut encore une fois modérer notre analyse parce que tu risques d'avoir des départs. J'imagine qu'Hojbjerg. En tout cas, les rumeurs disent qu'il risque de partir, pourquoi pas, du côté de la Première Ligue. La même chose avec Balerdi. Je pense qu'on a entendu que Rulli allait partir aussi du côté de Manchester City. Medina aussi, je ne sais pas si c'est avéré encore, mais j'ai entendu que c'était quasiment acté du côté de Leverkusen. D'ailleurs, c'est
25 millions d'euros. Tu l'emmènes à Marignane, non?
Ah ouais, bah je l'emmène.
Medina.
Ah ouais,
je tous les jours. Il n'était pas donné. Quand
il avait acheté 20, je crois, avec bonus et quelques. Mais c'est vrai que de faire une plus-value sur un Medina qui a fait une saison très très moyenne l'année dernière. Merci à la Coupe du Monde pour pour le coup.
La Coupe du Monde, le gars, il fait finale de Coupe du Monde. Bon.
Il a joué les premiers matchs. Il a plus joué.
Finale de Coupe du Monde.
Oui. Tu as raison. Dans ce cas-là, oui, c'est vrai. Il a pas tort. Mais bon, enfin, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé là.
Il a raison.
Non, mais bon, enfin, finalement,
après
Coupe
Martinez
du monde,
Novel, il a vu ses saisons à Lens aussi à Medina. Donc, il sait qu'au poste d'axial gauche, c'est ce qu'il a vu de mieux, peut-être, ou presque, sur ce.
Bon, il était dans le même système l'année dernière avec l'Olympique de Marseille, et ça n'a pas trop fonctionné. Après, c'est vrai qu'à Leverkusen, bon, on lui souhaite bonne chance, mais c'est clair, pouvoir le vendre pour 25 millions, Lorenzi a fait du bon travail. Mais je suis d'accord avec toi, pour le coup, par rapport à ce match-là, j'ai trouvé l'OM convaincant. Vraiment. Intéressant, même physiquement, j'ai trouvé intéressant. Hein, on sentait qu'ils étaient prêts par rapport à un Bilbao qui avait l'air un petit peu emprunté physiquement. Alors, est-ce que tu peux vraiment tirer des enseignements à la même chose qu'on a dit un peu plus tôt par rapport à Monaco sur des matchs amicaux? Mais ouais, j'ai été agréablement surpris. On en parlait un peu plus tôt. Hein, à quoi va ressembler cet Olympique de Marseille? On connaît un peu la cure d'austérité. que connaît justement le club de, sur la Canebière. Mais s'ils arrivent à garder son titulaire avec quelques départs, pourquoi pas, pourquoi
justement, pas, justement, Maxime, on va écouter Bruno Genesio, hein, que tu as interviewé à Max il y a quelques minutes. Premier sonore donc du nouveau coach de l'OM pour ce premier match au Vélodrome, justement sur son 11 de départ. On écoute.
Le 11 de départ jusqu'au 31 août, il risque de changer tous les jours. Donc il n'y a pas de 11 de départ. Oui, on a mis des choses en place en prévision d'eux, mais d'ici le match de Strasbourg, il peut se passer encore plein de choses. Pas seulement le mercato d'ailleurs, hein, il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Donc, et je l'ai dit, de toute façon, je compte sur tous ceux qui composeront ce groupe au 1er septembre. Parce qu'une saison, on ne peut pas faire une saison avec 11 ou 12 joueurs. On a besoin de tout le monde et on a besoin de tout le monde avec un bon esprit.
Il est fataliste, Bruno Genesio, Kevin, mais il est lucide. Et il y en a un qui va avoir beaucoup de travail là dans les jours qui viennent jusqu'au 31 août, c'est Greg Lorenzi. Hein.
Non, mais de toute façon, ce qui se passe à...
Pourquoi tu te marres?
Non, je ne me marre pas, mais je souris. Ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, c'est... J'ai envie de te dire, le mot qui me vient, c'est triste, quoi. C'est triste, après, je ne veux pas dire les enflammades, mais en tout cas, l'enthousiasme des deux dernières saisons, des deux derniers mercato avec Roberto De Zerbi, d'avoir maintenant la grande braderie. Alors, je l'entends tout à fait, hein, les clubs doivent vendre, le club doit vendre, le club a vécu au-dessus de ses moyens, mais malheureusement, comme tous les clubs français, vivent au-dessus de leurs moyens. Mais... Moi, j'ai vu une nouvelle passer comme quoi maintenant les salaires à l'OM ne dépasseront pas entre 100 et 150 000 euros maximum, si je dis pas de bêtises. Faut quand même qu'on se rende compte que 100 000 euros pour un footballeur professionnel en Europe, c'est énorme en fait. Alors certes, c'est pas la première ligue ou c'est pas les plus grands clubs de je sais pas, peut-être espagnol par exemple, mais même en Espagne, c'est pas tous les joueurs qui gagnent 100 000 euros. Hein.
Non, mais t'es l'Olympique de Marseille, Kevin, si tu vas attirer des joueurs, t'es obligé d'avoir des gros salaires. C'est d'accord, la raison d'ailleurs pourquoi ils veulent dégager aussi Hochberg, qui prend, je crois, un demi-million par mois.
Oui, mais c'est peut-être un problème que des joueurs à Marseille prennent un demi-million d'euros, même si j'adore Pierre-Emile Hochberg, qui est vraiment un de mes joueurs préférés depuis un bon nombre d'années. J'aime bien, moi j'aime bien en tout cas, donc je critique pas le joueur. Mais aujourd'hui, il faut quand même qu'on sache que, je te dis, 100 000 euros par mois, c'est pas le SMIC non plus.
Non.
Et même pour les footballeurs.
Kevin, ça va
non, être... c'est
bien
pas le SMIC.
Sûr, mais
non,
tu peux pas parler de 100 000 euros, c'est pas énorme, malheureusement. Alors ça va faire sauter certains.
Oui.
Mais 100 000 euros dans le football actuel,
tu sais quel est le salaire médian d'un footballeur professionnel dans le monde.
Évidemment, dans le monde. Mais si tu prends le championnat d'Iran et le championnat d'Irak, évidemment que ça descend.
Ah oui, mais oui. Bah oui, mais le salaire médian pour un footballeur professionnel dans le monde, c'est 2 000 euros, mon vieux.
Ah,
c'est
2 000
euros. Donc là, on parle de grand ligue. Mais entre 100 000 et 150 000 euros,
si on compare la Ligue 1 avec le championnat de Corée du Sud, je suis d'accord.
Non, je te parle des footballeurs professionnels, voilà.
D'accord.
Les footballeurs professionnels. Donc, je te dis qu'aujourd'hui, gagner entre 100 000 et 150 000 euros, même en Ligue 1, il y a de quoi faire une équipe quand même, hein. Tu vas pas jouer le maintien avec des joueurs à 100 000 euros non plus.
Bon, t'es l'Olympique de Marseille, tu vas pas jouer le maintien.
L'Olympique de Marseille, tu vis avec tes moyens. T'as vécu au-dessus de tes moyens.
Bien sûr.
Ça te revient la porte dans la bouche. C'est comme ça. C'est la vie.
Bien
c'est
sûr.
Pas très grave. Maintenant, c'est triste que l'OM doive dégraisser, certes, mais des salaires à 100 et 150 000 euros, il y a encore de quoi faire de belles
justement,
équipes de football.
Justement, les garçons, hormis le Paris Saint-Germain, hein, qu'on met à part, savez-vous quelle est la moyenne du salaire d'un joueur de Ligue 1, en Ligue 1?
C'est 80, non?
55. 55 000 euros.
Voilà, 55, tu vois.
Ouais.
T'es même
ouais,
au-dessus.
Mais bon, c'est toujours la même chose. Si tu recrutes, et c'est aussi la raison pour laquelle, d'ailleurs, Lorenzi est arrivé à l'Olympique de Marseille, c'est justement parce que par rapport à son passé avec Brest, peut-être qu'il a l'expérience d'aller chercher des joueurs français qui ne vont pas coûter très cher. Donc, je suis d'accord avec toi, Kevin. C'est possible de recruter des joueurs avec 100 et 150 000 à 150 000 de salaire par mois. D'ailleurs, il faudra aussi penser au transfert parce qu'évidemment, quand un joueur qui arrive avec 150 000 de salaire par mois, ben, c'est un joueur qui te coûte pas très cher. C'est sûrement ce qui va se passer d'ailleurs avec l'Olympique de Marseille, des joueurs aux alentours de 4 ou 5 millions, des joueurs qui vont arriver en prêt avec des options d'achat. Mais excuse-moi, quand tu es l'Olympique de Marseille, que tu veux jouer l'Europe, en tout cas que tu veux absolument jouer les premiers rôles dans cette Ligue 1, et ben malheureusement, quand tu vas récupérer des joueurs à 4 millions, à 5 millions, avec des salaires à 150 000, et ben t'as pas les meilleurs joueurs, malheureusement, d'Europe. C'est comme ça. Mais bon, je pense que
mais
c'est
avant,
une cure d'austérité.
Avant, ils n'avaient pas les meilleurs joueurs d'Europe non plus.
Ben, quand tu vas chercher Kondogbia, quand tu vas chercher Hochberg, quand tu vas chercher
c'est
Benjamin Pavard,
c'est pas les meilleurs joueurs d'Europe.
En tout cas, par rapport à la Ligue 1, c'est des très bons joueurs. Tu peux
bien
pas
sûr,
dire
mais
le contraire.
C'est pas les meilleurs joueurs d'Europe.
Voilà.
Tu vas chercher Paixão, c'est pas les meilleurs joueurs d'Europe.
Non, mais c'est des très bons joueurs qui peuvent en tout
quand
cas performer en Ligue 1.
Là, ah, c'est autre chose.
Ah d'accord. Donc, quelle est la différence entre autre... Hochberg et
Greenwood
alors?
Non, mais Greenwood, ça n'a rien à voir. Greenwood, c'est de ses problèmes extrasportifs qui l'ont amené à arriver à l'OM.
D'accord.
Sinon, Greenwood,
et donc,
il est pas
Hochberg,
à l'OM.
Hochberg, c'est quoi alors? Hochberg, c'est la même chose.
Hochberg, c'est l'âge. Hojbjerg, il vient pas dans la fleur de l'âge. Il son prime, il est fini, hein, Pierre-Emile Hojbjerg.
Non, mais ça n'a rien à voir. Là, on est en train de parler de ce que le joueur peut apporter à l'équipe. T'es d'accord avec moi quand Hojbjerg arrive à l'Olympique de Marseille?
Moi, je te dis que les joueurs sont surpris
à ce moment-là.
Moi, je te dis que les joueurs sont surpris.
Je suis d'accord avec toi. Bien sûr,
ils sont trop de salaire à ces mecs-là. Mais pourtant, j'adore Hojbjerg. Je l'adore. Je le défends toute l'année. Ouais. Mais c'est des joueurs surpayés. Mais
parce que
tu dois pas payer un mec 500 000 euros alors que t'as aucune économie pour amortir ce genre de salaire.
C'est malheureusement la manière dont fonctionne le football aujourd'hui. Tu peux pas aller récupérer un joueur.
Le football a changé le salaire médian du joueur.
Tous les clubs sont déficitaires, tous les clubs sont au bord de la faillite et on peut pas dire ah ouais mais c'est comme ça. Bah non, c'est pas comme ça en fait. Ça devrait pas être comme ça.
Et d'ailleurs, c'est ce qui va peut-être profiter à l'Olympique de Marseille.
Voilà, moi je pense
que certes, l'Olympique de Marseille est dans une situation économique catastrophique, mais Monaco a besoin de dégraisser, Lille a dégraissé, enfin il y a énormément de clubs qui ont dégraissé. Lyon a besoin de dégraisser.
Revenons sur l'OM, les garçons,
opportunité en tout cas à Marseille de faire une bonne saison.
On va écouter Bruno Genesio, de nouveau. Cette fois, il nous parle du match et de cette victoire face à Bilbao.
Non, déjà, on était impatients de jouer ici. Enfin, moi, pour la première fois en tant que coach de l'Olympique de Marseille, c'était une attente. Et concernant le match, les joueurs ont répondu à ce qu'on attendait, à ce qu'on fait depuis maintenant 5 semaines en préparation, à la fois dans le contenu, parce que j'ai vu beaucoup de choses intéressantes, mais aussi dans l'état d'esprit, à l'image de ceux qui sont rentrés soit à la mi-temps, soit en cours de deuxième mi-temps, et qui ont eux aussi permis à garder un bon niveau général de l'équipe. Voilà, maintenant ça reste un match de préparation. C'était quand même une équipe largement supérieure, sans faire offense aux adversaires qu'on avait rencontrés avant, largement supérieure. C'était une bonne manière d'évaluer ce que les joueurs avaient enregistré depuis notre arrivée. Et voilà, donc on est satisfait.
Maxime, je vais te libérer dans un instant. Je sais que ta journée a été longue, mais donc tu as réalisé ces interviews. Tu as pu voir donc de près Bruno Genesio. Au son de sa voix, on sent du sourire, on sent qu'il est détendu. C'est aussi ton avis?
Ouais, de la sérénité, et c'est ce qu'il incarne, et avec Grégory Lorenzi aussi. C'est vrai que le trio, et on va même ajouter le président Richard qui complète ce trio, qui vient remplacer un autre trio avec De Zerbi, Longoria et Benatia. Voilà, c'est vraiment un vrai renouveau pour l'Olympique de Marseille. C'est Bruno Genesio qui est en première ligne médiatique, et pour le moment, il incarne parfaitement cette sérénité, cette stabilité, et comme il l'a dit à propos de son 11 de départ, ça va changer jusqu'aux dernières heures du mercato, voire même au-delà, avec le marché des joueur libre. Donc voilà, il est prêt à relever ce défi du côté de Marseille. Il sait dans quoi il s'est lancé, et pour le moment, bon, bah ce n'est que la préparation.
Pour Bruno Genesio, qui arrive dans un club où il y a toujours de la pression, mais il y a quand même moins de pression. C'est un club qui est groggy, comme on l'a dit, après une saison dernière catastrophique. Donc, en tout cas, avec des événements catastrophiques dans cette saison, même s'ils ont fini par arracher une place européenne quand même. Mais aujourd'hui, moi, si je suis Bruno Genesio, et qu'encore une fois, tu me dis, ou même si je suis directeur sportif, hein, et que tu me dis, bon, ça va, il y a une cure d'austérité, mais tu peux prendre des joueurs à 100 000 quand même. C'est pas moi. Quand même, il y a des trucs à faire. Ça va pas se faire en un jour. Il y a bien sûr du travail. Ils viennent d'arriver, donc le recrutement, ça se travaille. Ça va peut-être être là, pas là cet été, peut-être cet hiver. Ça va prendre un peu de temps, certes.
Parce que t'as du temps à Marseille.
Ouais, mais voilà. Comment va réagir le vélodrome? Parce que les premières journées, c'est Strasbourg, Monaco, PSG, Rennes.
Il y a
pas d'influence.
Il y a des
ambitions quand même.
Ça va peut-être jouer en la faveur de l'Olympique de Marseille, moi, je pense, cette situation. Parce qu'il y a finalement beaucoup moins d'attentes qu'il y en a eu l'année dernière.
Les Marseillais, c'est pas des idiots. Ils savent qu'il y a cure d'austérité.
Ouais, ce sera jamais un club banal. Hein, Max a parlé du début de saison. Cinq premières journées, Strasbourg, Monaco, le PFC, Rennes et le classique au Vélodrome face au Paris Saint-Germain. Tu prends pas beaucoup de points, ça va être le feu au Vélodrome.
C'est clair, on avait eu quelques auditeurs un peu plus tôt, justement, qui nous disaient qu'ils attendaient absolument rien de cette saison. Est-ce que finalement, c'est pas une saison de transition avec un nouvel entraîneur, avec des joueurs qui vont partir, des joueurs qui vont arriver avec des salaires à 100 000 euros, comme dit Kevin, des salaires énormes, mais qui ne sont pas si énormes pour la Ligue 1, en tout cas pour un grand club comme l'Olympique de Marseille.
Et pour la Ligue 1, c'est énorme, 100 000 euros.
De quoi? Bah, pas pour un club comme l'Olympique de Marseille.
Pour la Ligue 1, ça reste
censé concurrencer à la base un club.
Pas pour le premier tiers.
Mais on est d'accord, mais bien sûr.
C'est pas énorme, mais c'est bien. Ça te permet de recruter des joueurs. 100 000 d'entre 100 et 150.
Des joueurs pour le premier tiers. Voilà. Je pense que le terme a été lâché. C'est qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille n'a plus le choix. Elle va prendre des joueurs qui vont récupérer 100 000 balles par mois. Mais la réalité, Kevin, enfin, tu connais le ballon. 100 000 balles, c'est pas grand chose. Mais évidemment,
que Moi, je trouve que c'est faux.
Ah bon?
Moi, je trouve que c'est faux.
Ah, d'accord. Bah,
oui. Les meilleurs joueurs en Eredivisie, ils prennent pas 100 000 balles.
Parce que t'es en Hollande.
Les meilleurs joueurs en Portugal, ils prennent pas tous 100 000 euros par mois.
Tu vas aller prendre un pari pour un joueur joueurs qui arrivent de Telstar.
Mais Lille, ils recrutent où leurs joueurs, en fait? Lille, ça fait 10 ans qu'ils performent, ils les recrutent où leurs joueurs? Ils les recrutent en Eredivisie, en Belgique, au Portugal. Et ben, Marseille, ils vont faire pareil. Lyon, ils les ont pris où, les Tchèques, là? Ils les ont pris où? Ils les ont pris en République Tchèque. Donc, Soult, c'est un bon joueur.
Mais évidemment que tu peux faire des,
arrêter de dire que le premier tiers, les clubs français n'ont pas les moyens de donner des salaires à 500 000 euros, en fait.
Je suis d'accord avec toi.
Donc, ils faisaient n'importe quoi depuis 10 ans.
On est d'accord.
Il va falloir arrêter de faire n'importe quoi et travailler comme il faut, c'est tout.
On est d'accord avec ça, mais t'es d'accord avec moi, là, que tu parles de Paris. Tu sais pas exactement lorsque tu vas prendre un
mais même à 500 000, c'est un pari. Aujourd'hui.
En règle générale, quand t'es censé récupérer Pavard et Hochberg, c'est pas un pari. La réalité, c'est que oui, l'Olympique de Marseille est un club à part et que peut-être ça va jouer en leur faveur cette situation un petit peu d'austérité qui va permettre de faire venir des joueurs qui ont envie de venir au club. Je suis d'accord avec toi, avec des salaires amoindris. De toute façon, ils ont pas le choix. Mais me dis pas qu'aujourd'hui, 100 000 balles dans un club comme l'Olympique de Marseille, c'est un gros salaire. Ce n'est pas vrai.
J'ai pas dit que c'est un gros salaire. J'ai dit que il y a largement de quoi travailler.
Ah oui, c'est sûr. Ouais. Bah, bon. On va chercher des joueurs en D2 portugaise. Ils vont tous venir, hein, pour 100 000.
Maxime. Non, mais là, en D2 portugaise, c'est pas 100 000 euros qui gagnent.
Ouais, j'ai bien compris où ça.
C'est pas 100 000 euros, c'est 2 500 euros. Il faut connaître les réalités. Ouais. C'est 2 500 euros en D2 portugaise.
100 000 balles, 3 000,
4 000 max.
Maxime Tilliette, merci beaucoup d'avoir passé les têtes dans l'after et cet après-midi dans l'Intégral.
Maxime, attends, tu peux rester un peu?
Pourquoi?
Non, c'était juste pour te retenir.
Il est bête, ça, celui-là. Merci beaucoup, Maxime. Bon retour. Débat enflammé sur l'Olympique de Marseille. Un club à part, un club qui ne sera jamais banal. On accueille Farid, qui a composé le 32-16. Salut, Farid.
Bonsoir.
Salut, Farid.
Salut, Farid.
Salut, alors, Max. Salut, Kevin.
Raconte-nous, Farid.
T'étais au match?
Non. Justement, moi, je fais partie un peu des blasés, des dégoûtés de la saison dernière, et malgré le fait que j'avais une invitation et que pour moi tout était ok pour y aller, j'ai décidé de pas y aller quand même.
Bon, est-ce que t'as pu voir le match?
J'ai quand même regardé, bien sûr, par passion, j'ai quand même regardé. Après, j'étais en train d'écouter votre débat. C'est vrai que bon, quand on parle en termes de recrues, moi j'ai envie de vous dire que j'aimerais qu'on parte sur une page blanche. Et que qu'en fait on est 24 recrues là actuellement dans l'effectif, car l'attitude de certains joueurs qui étaient présents depuis plusieurs saisons au club et leur investissement, il faut rayer ça, quoi. Il faut rayer ça et repartir avec 24 nouveaux joueurs, qu'ils soient anciens ou réellement nouveaux joueurs.
C'est quasiment le cas déjà. De toute façon, ils ont pas le choix. Déjà, ils vont dégager un petit peu là leur trio de mousquetaires argentins là, entre Roulet, Medina et j'espère Balerdi là, Miri, Fifi et Loulou. Ça devenait un peu grotesque, hein, l'année dernière là, leur scène de ménage à trois. Donc ils ont pas le choix. On l'a dit un peu plus tôt. De toute façon, il y a des joueurs qui vont partir.
Oui,
t'as Hochberg, t'as peut-être Kondogbia, t'as les valeurs marchandes, t'as Greenwood qui est déjà parti. Je suis d'accord avec toi, je pense que l'OM doit repartir d'une page blanche.
Le processus, il est lancé.
Maintenant, la question, c'est de savoir, toi, en tant que supporter, est-ce que tu es prêt à vivre une saison de transition avec des résultats qui seraient peut-être en dessous de vos attentes?
Ben ça, Maxime, c'est un peu... Kevin doit un peu le savoir. Quand on parle de page blanche, à réécrire, dans la position actuelle avec le nouveau staff, une nouvelle direction... cette page blanche, t'es pas obligé de l'écrire pour les 6 prochains mois. Tu peux mettre en place un projet pour 2 ans, 3 ans, pour retrouver la Ligue des Champions d'ici 24 mois. Tout ça.
Ouais, mais ça bouge tout le temps, Farid, à l'OM.
Puis t'es bien placé pour savoir. Si. Hein. Tu laisserais 2 ans, toi, à Genesio, si demain.
Suivant la communication, si les gars nous expliquent que leur projet aujourd'hui, il est de retrouver un OM compétitif dès cette saison pour un premier tiers du classement et la saison d'après, restructurer encore mieux le club et rejouer les premiers rôles. Je pense qu'on sera patient.
Et puis pour aller dans le sens de Farid, faut arrêter de croire que les Marseillais, ils connaissent pas le foot. Les Marseillais, c'est bien sûr
qu'ils... Qui a dit ça?
Mais les Marseillais sont quand même lucides. Ils sont pas tous c'est pas des gens moi j'ai plein d'amis marseillais.
Ouais, d'accord, Kevin, mais Habib Bey, c'était une page blanche aussi. Et ça a duré 3 mois.
J'ai plein d'amis marseillais. Ils ont pris tellement de coups sur la tête, les Marseillais, qu'ils savent très bien que cette saison, elle va être particulière. Et ça va. Ils les ont vécu, les émotions. Ils les ont vécu, les catastrophes. Donc, il y a un moment, ils savent que le club doit faire une cure d'austérité parce qu'il n'y a plus d'oseille et parce que l'oseille a été...
D'accord, Kevin. Mais encore une fois, c'est un club à part.
Mais c'est un club à part.
Le calendrier, Strasbourg, Monaco, le PFC, Rennes, le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Tu prends une blessés contre le PSG au Vélodrome, c'est le feu.
T'es pas lucide, tu peux pas me dire que les Marseillais vont accepter une saison. Est-ce que l'OM termine 10e? C'est pas possible. Non, mais justement, la question, toi, Farid, sincèrement, toi et ton entourage, tu serais prêt vraiment à accepter une saison où l'Olympique de Marseille termine 10e du classement?
Mais Maxime, tu veux que je voie autre chose qu'un premier tiers du classement? Avec aujourd'hui une compo et en plus un coach qui après le match se dit bon, la compo on sera jamais sûr de rien jusqu'au 1er septembre, avec une compo Balerdi dans l'axe, avec Cornelius, avec, bon je suis désolé, Wea il a la cote, mais moi Wea latéral droit je prends pas.
Mais tu me parles de joueurs qui seraient titulaires dans n'importe quel club de Ligue 1 à part au PSG. Alors je suis d'accord avec toi, tu vas jamais pouvoir
la défense de Lyon, la défense de même de Monaco, tous nos concurrents
directs. Ah bah là Monaco aussi pour le coup
c'est supérieur. On a encaissé 110 buts les gars, 110 buts sur les deux dernières saisons, oui. Avec deux Zerbi et un petit bout de Beng.
Mais là, c'est deux choses différentes. Là, tu parles justement de la tactique de Zerbi. Là, tu vas arriver avec un Genesio qui va sûrement jouer différemment. Certitude. Mais quand tu regardes un petit peu cette Ligue 1, okay, avec un Paris Saint-Germain qui est certes intouchable, un Racing Club de Lens qui va jouer un match tous les trois jours, qui risque de lâcher en Ligue 1 parce que c'est comme ça. Ils n'auront peut-être pas l'effectif qui leur permettront de jouer sur les deux tableaux. Avec un Monaco qui dégraisse, avec un Olympique Lyonnais qui est aussi obligé, malgré tout, de vendre parce qu'on connaît un peu la situation de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, n'oublions pas ce qui s'est passé l'année dernière. Marseille est quasiment un peu dans le même cas de figure. Donc, ce qui donne un petit peu, finalement, d'optimisme à l'Olympique de Marseille. Parce que si ça a fonctionné avec Lyon, pourquoi pas avec l'Olympique de Marseille? Même si c'était différent, parce qu'évidemment, il y a un nouveau investisseur qui a repris le club à un moment donné où est-ce que l'Olympique Lyonnais était rétrogradé en Ligue 2. Mais enfin, on est d'accord que l'appétit vient en mangeant. Enfin, je veux dire, l'Olympique de Marseille, quand tu regardes l'équipe qui a été. Quand tu regardes l'équipe qui a été alignée contre Bilbao, à part Balerdi et peut-être Hojbjerg qui partent, c'est quand même une équipe qui doit jouer, excuse-moi, le haut de tableau, qui doit jouer les 5 premières places, qui doit jouer entre la 3e et la 6e place tous les jours. Donc me dire que tu serais content, en tout cas que le Marseille, en règle générale, serait content, les supporters, de terminer à la 10e position, alors, non, la 10e, je peux pas, ça veut dire que tu te battrais avec Brest et Angers.
Attends, mais Maxime, s'il te plaît, reprenons nos esprits. Qui a parlé de finir 10e?
Non, mais t'es en train de dire une saison de transition.
Une saison de transition, et alors, je viens de te dire aussi, il y a 10 minutes, que à 100 000 euros, ouais, t'es quand même dans les meilleurs salaires de Ligue 1.
Mais c'est pas dire que t'es en train de n'importe quoi, Kevin. Je sais pas si c'est la préparation qui t'a fatigué.
Mais qu'est-ce que tu me racontes, en fait?
Mais non, mais tu sais pas, c'est pas ce que je t'ai dit. J'étais en train de te dire que 100 000 euros pour l'Olympique de Marseille, c'est pas énorme.
Pas en même temps.
Il y a de quoi, avec 100 000, entre 100 000 et 150 000 euros, faire une équipe pour être européen en Ligue 1. C'est bon ou on peut pas dire ça, en fait?
On est d'accord, c'est possible.
Pourquoi tu me parles de 10e, là?
Je te dis que. En train de parler d'une saison de transition, tu me dis que les Marseillais connaissent le ballon, ils seraient heureux.
Les Marseillais veulent aller en Ligue des Champions normalement tous les ans, ils veulent pas finir 7e.
Donc, il y a où le débat sur la 10e place? On en a parlé ou pas?
Mais tu viens de dire 10e.
Ah d'accord, très bien.
J'ai pas parlé de 10e. Okay. Je t'ai dit que en fonction de l'équipe qui aura au 1er septembre, je connais pas moi la situation financière de l'OM, je suis pas directeur financier. Je te dis que ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est que les salaires ce sera 100-150 000. À 100-150 000, même si tu prends des joueurs de Ligue 1, quelques bons coups et que tu gardes, de toute façon, tu vas quand même garder des joueurs de cet effectif, je ne sais pas encore qui, je ne connais pas les offres. Il y a de quoi faire une saison où tu vas finir européen, c'est-à-dire top 7 Ligue 1.
D'accord, donc je te dis que les Marseillais pour toi, c'est pas une saison de transition, l'année dernière ils ont fini.
Je te dis que les Marseillais, si tu leur dis, même s'ils débutent mal, comme disait Christophe, même si il y a des hauts et des bas dans la saison avec un Genesio qui découvre le club, avec un nouveau directeur sportif très Ligue 1 qui connaît, qui a fait des très bonnes saisons avec Brest, si tu leur dis qu'ils finissent 6-7e avec un jeu cohérent, sans prendre des volets à droite à gauche, en gagnant un match sur deux, je te dis que les Marseillais ont quand même la lucidité d'être des supporters passionnés.
Donc c'est pas une saison de transition, l'année dernière ils finissent 5e.
L'OM dans des habitudes normales, avec une ambition normale et un budget un peu rehaussé, ça doit finir Ligue des Champions.
Mais ça a fini 5e l'année dernière, Kevin. Donc,
je viens de te dire top 7, c'est pas 5e.
Excuse-moi, 5e, 6e, c'est la même chose.
Mais 5e, c'est une saison ratée pour l'OM.
Ah, d'accord, ok. Donc c'était une saison de transition l'année dernière.
Je pense que c'est toi qui as trop pris le soleil en Corse.
Non, tu
me parles de 10e place, je te dis top 7, tu me dis que c'est pas
une saison. On parlait de transition en règle générale.
Top 7, si l'OM avait fini top 7 sur les 4 dernières saisons, c'était une saison ratée. C'était une saison archi ratée, catastrophique.
Donc l'année dernière, c'est une saison ratée ou pas?
Mais bien sûr que c'est une saison ratée.
Et cette saison, si on était 6e, c'est raté ou pas?
Comment, Farid?
L'an dernier, avec l'effectif, le coach
et le
trio que tout le monde encensait, on était parti pour être les vice-champions de France. On était parti pour être second au la main, d'après toutes les analyses. Et puis on a fini 5e, c'est une saison ratée. Entre une saison ratée et une saison de transition, Ce sont deux choses différentes.
Bah, bien sûr.
D'accord. Et donc aujourd'hui, la question est, si tu terminais sixième, est-ce que tu serais content avec l'Olympique de Marseille ou pas?
En partant de cette saison?
Oui.
On fera le bilan au 1er septembre, Maxime.
C'est pas une réponse, ça.
Si maintenant, comme le dit Kevin, et moi je suis d'accord avec Kevin, et les directeurs sportifs de profession, si avec 100 000 euros de salaire, après on ne sait pas si c'est du net ou du brut, tu peux c'est pas trouver quand même un remplaçant à Balerdi, un peu supérieur à Balerdi, allez, on va dire un gars qui va concurrencer, oui, à latéral droit, un deuxième gars, bon après, je ne sais pas si à guerre de part ou pas. Après bon, le reste c'est intéressant, c'est très... mais aujourd'hui la disparité entre ton niveau devant et ton niveau derrière, il te permet pas de construire un collectif, quoi. Et donc voilà, il faut maintenant, moi ce qui me fait peur, c'est vraiment cette structure défensive, cette ligne défensive, cette compo de ton secteur défensif qui pour moi me fait trembler et me fait pas dire qu'on sera dans les quatre premiers. Tu peux pas être quatre premiers avec les cinq noms gardiens compris qu'on a lu aujourd'hui sur la feuille de match. Et moi, ça me semble difficile, Maxime, de pousser le positivisme jusque-là.
Très
aujourd'hui,
bien.
Si tu es dans le premier tiers, tu es sixième, et que tu te sers de cette saison pour ensuite rebâtir et revenir dans la course réellement avec des vraies armes et en Ligue des Champions, je pense qu'on aura déjà réussi une belle saison. Si on construit pour la saison prochaine, c'est-à-dire la saison d'après. Hein. Mais si cette saison, écoutez, tout s'aligne et tout va bien et que tout le monde a travaillé dans le bon sens et qu'on finit dans les quatre premiers, eh bien sûr, ce serait une surprise à laquelle, pour l'instant, je ne m'attends pas.
Très bien.
La majorité de mes...
Écoute, on verra.
On verra ça. On verra ça. Merci beaucoup, Farid, d'avoir composé le 32-16, un débat passionné.
À notre ami.
Explique-moi. On en reparlera quand vous terminerez sixième.
On va faire une petite respiration. On va faire tomber la température dans le studio de l'After. J'adore ces débats passionnés, en tous les cas. N'hésitez pas à composer le 32-16. On va parler du Paris Saint-Germain dans un instant. Vous êtes sur RMC, ne bougez pas.
RMC jusqu'à minuit, l'Afterfoot.
Christophe Pléné.
Avec Kevin Diaz, avec Maxime Chano, on vient de parler de l'Olympique de Marseille. Le débat était fort, puissant, passionné. On va parler du Paris Saint-Germain, à présent le champion de France en titre, le double tenant du titre de la Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles. Le Paris Saint-Germain archi-favori. Le Paris Saint-Germain qui a démarré sa préparation par une fessée, une défaite 3-0 face à Mallorca. Et le Paris Saint-Germain qui a fait match nul hier, un but partout. Ça se passait à l'Ulevi Stadion de Göteborg face à Manchester United, avec le retour des Portugais, notamment de Marquinhos aussi. On a monté un petit peu le curseur du côté de Luis Enrique. Et on l'a appris aujourd'hui, hein, c'est une information à RMC Sport. Le CUP, le collectif Ultra Paris, habitué à donner de la voix ces dernières années, ne devrait pas être du rendez-vous du trophée des champions. Les supporters parisiens ne comprendraient pas le choix de jouer dans le Nord. Selon eux, le match devrait se jouer sur un terrain neutre. Donc il y aura d'abord la Super Coupe d'Europe, hein, face à Aston Villa à Salzbourg en Autriche le 12 et le 16, donc la semaine prochaine le trophée des champions, donc face à Lens à Bollard. C'est vrai que c'est un petit peu étrange, ça, de faire jouer ce match à Bollard à Lens.
Pourquoi?
Lens est forcément avantagé de jouer à domicile.
Mais ils ont fait tirage au sort, si je dis pas de bêtises. Ils ont fait tirage au sort, c'était soit au Parc des Princes, soit à Lens.
Est-ce qu'ils auraient pas pu trouver un terrain neutre? C'est vrai que c'est défavorable pour le Paris Saint-Germain.
Non, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est très bien. Ils ont fait tirage au sort, ça aurait pu être au Parc, ça a été à Lens. C'est très bien, ça va faire une belle fête du foot. Ça va, ils vont s'en remettre. Hein. S'ils jouent à Lens, même s'ils perdent un trophée des champions, ils vont s'en remettre, je crois. En l'occurrence, ça a été accepté par les deux clubs. Ce tirage au sort, l'un ou l'autre. Moi, je trouve que ça permet une belle fête pour un des deux clubs. Ça aurait pu être au Parc, c'était très bien, c'était à côté pour nous. Du coup, c'est à Lens. Bah, tant mieux pour les nordistes. C'est un magnifique stade. Tu voulais faire où? À Charletti ou à Lille?
Tu pourrais faire sur un stade neutre.
À Amiens.
Finalement, c'est la LFP qu'il faut blâmer. C'est pas forcément les clubs.
Au Vélodrome.
Est-ce qu'il y a un Vélodrome? Oui, ça aurait fait plaisir.
Ça va. Le PSG, ils organisent le trophée des champions où ils veulent, quand ils veulent, depuis 4 ans. Ils vont s'en remettre si une fois ils doivent aller à Lens, dû à un tirage au sort.
Après, ce qui est incompréhensible, c'est que finalement, t'impactes ton équipe. Le groupe de supporters.
C'est quoi exactement? Ils veulent pas y aller parce qu'ils sont pas d'accord avec le tirage au sort.
Voilà, ils ne comprennent pas que on est décidé de jouer ce match dans
Au Parc des Princes.
Alors après, ils ne sont peut-être pas au courant qu'il y a eu un tirage au sort, je ne sais pas. En tous les cas, le CUP, donc le collectif Ultra Paris, a lancé un appel au boycott de cette rencontre. On va dézoomer tout cela. On va revenir sur la préparation du Paris Saint-Germain. Supporters du PSG, n'hésitez pas à composer le 32-16 pour intervenir dans l'after. Donc je le disais, une défaite 3-0 face à Mayotte.
York, un match nul un partout hier face à Manchester United. Il y aura donc ce premier match officiel face à Salzbourg dès mercredi. Ce sera le 12 avec Luis Enrique, Max, qui récupère quand même des joueurs.
Oui, j'ai regardé ce match contre Manchester United. Bon, il y avait encore pas une fois pas mal d'absents. Encore une fois, on a eu un Zabardi qui m'a pas forcément rassuré. Safonoff a été intéressant. Écoute, c'était un bon match. Le Paris Saint-Germain qui rentre très très bien dans son match, hein, qui marque très tôt dans la partie. Puis bon, derrière, encore une fois, il y a eu beaucoup de turnover. Donc un peu à l'instar de ce qu'on a dit sur Marseille et sur Monaco. Je sais pas si tu peux vraiment tirer un plan en tout cas sur ce match amical là. Voilà, c'était pas exceptionnel. J'attends le retour des mondialistes en règle générale. C'est vrai que ça va être intéressant de voir tous ces mondialistes justement qui reviennent sans forcément avoir eu de préparation, dans quel état de forme physique ils vont arriver. Après voilà, j'ai bon espoir de me dire qu'ils sont entretenus malgré tout pendant leurs vacances et qu'ils seront prêts en tout cas pour pouvoir jouer ce match là. Mais le match contre Manchester United, il n'y a pas énormément de leçons à en tirer.
C'est une semaine à deux titres potentiels, hein, la Supercoupe d'Europe et le trophée des champions. On va dézoomer un petit peu tout cela. Est-ce que ça ferait désordre quand même eu égard désormais au statut du Paris Saint-Germain de conclure cette semaine sans titre?
Écoute, moi j'ai dit hier ce que je pensais de ce genre de titre. Autant la Supercoupe d'Europe, c'est quand même un truc très
sérieux. C'est pas anecdotique quand même.
Non, c'est pas anecdotique, c'est un truc. Mais pour moi, ça reste des matchs de préparation officiels. C'est-à-dire que c'est pas. C'est pour moi, je l'ai dit hier, je le répète. Ça plaît pas, j'ai rien à faire. Mais moi, pour moi, ça reste pas très important dans une saison. L'année dernière, ils l'ont gagné à une minute de la fin, ils le perdaient. Bon, ils l'ont gagné, très bien, ils sont contents, tant mieux, ça leur fait. Mais moi, le truc de, on a gagné 6 trophées. Non mais arrêtez. Que ce soit le PSG, le Barça à l'époque, Manchester City, t'as rien gagné du tout ces trophées. T'as trois vraies compétitions, qui est la coupe de ton pays, t'as le championnat et la coupe d'Europe.
Ça, tu le comptes pas. Hein, comment, c'est un trophée malgré tout, non? C'est vrai que c'est un trophée facile à gagner.
Je pense que si j'avais eu la chance de gagner un trophée des champions, je pense que je l'aurais mis sur ma cheminée.
En arrête, gros, tu nous en parlerais encore.
J'aurais
peut-être
tout, je pense.
Mais vraiment. Mais voilà, c'est comme le trophée Gamper. C'est comme les trophées. Il y avait des trophées comme ça, le Barça qui organise toujours un match de commémoration. Voilà, ok, c'est toujours bien. Il y a eu des
bon, Gamper, c'est un trophée amical. Ça compte pas dans le palmarès. Quand même,
hein. C'est bien, mais
alors que la Supercoupe, oui. Pour moi, et le trophée des champions,
j'ai bien
aussi.
Compris, mais pour moi, le trophée des champions, c'est un trophée amical aussi. Quand on voit dans quelles conditions il est organisé en France depuis 3 ans, excuse-moi, c'est quand même pas un truc très important pour la Ligue. Hein. Là, ils le font comme ça. J'aime bien quand c'est en début de saison. C'est bien, c'est le premier match amical. Tu vois un bon match en général entre deux équipes qui ont envie de gagner. Mais voilà, je pense pas que ça va définir la saison du PSG ou du Racing Club de Lens.
Oui, ça va sûrement pas définir la saison. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est quand même des trophées et pour certains joueurs, et c'est des trophées supplémentaires. Pour les nouveaux arrivants, c'est des trophées supplémentaires. C'est vrai que quand tu es au PSG depuis un certain nombre d'années, en effet, tu l'as gagné 3, 4, 5 fois d'affilée. Peut-être que ça donne un peu moins de valeur finalement à ces deux prochains matchs. Mais on a été joueur, on sait ce que c'est. C'est tellement difficile de gagner des trophées. Même quand tu es joueur du Paris Saint-Germain, tu as l'opportunité de pouvoir gagner des trophées. Et en l'occurrence, en jouant un match, que ce soit contre Aston Villa ou contre Lens, il faut pas le bouder. Maintenant, ça va être intéressant de voir dans quel état de forme vont arriver. Ça va être intéressant de voir dans quel état de forme arrivent les mondialistes, en tout cas les joueurs qui vont débuter ce match-là, sachant qu'Aston Villa a beaucoup moins d'internationaux, donc j'imagine qu'ils vont arriver avec une équipe beaucoup plus forte. C'est la même chose pour le Racing Club de Lens. Maintenant, on va voir. Mais non, clairement, enfin, c'est des trophées pas tellement faciles parce qu'ils ont cravaché hein, pour en arriver dans cette situation-là, c'est-à-dire de pouvoir jouer ces deux finales. Maintenant, non, je pense qu'il faut être sérieux.
Le PSG n'est pas prêt, on est tous d'accord là-dessus, mais à la différence de la saison dernière, le PSG a eu droit cette année à une vraie préparation. Donc voilà, Luis Enrique a cela en tête. Il y aura donc ce match face à Salzbourg, donc en Supercoupe d'Europe, en Autriche, le trophée des champions. Et puis derrière, la reprise de la Ligue 1, le 23 août, les 5 premières journées, hein, quand même, les garçons, écoutez bien, Rennes au Parc. Lille à Lille, Monaco à Paris, Brest à Brest et Marseille à Marseille au Vélodrome. Là, faudra être prêt. Fini les matchs amicaux de préparation ou les trophées des champions ou la Supercoupe d'Europe.
Oui, bon, il n'y a pas grand monde qui croit quand même que le PSG est en difficulté en Ligue 1, hein, même si c'est vrai que le début de championnat est assez corsé, c'est bien. Ça va leur permettre de rentrer tout de suite dans le bain. Par contre, vous avez vu la petite vidéo quand Magnès Akliouche arrive à Poissy au campus? Non mais Luciano Riquet, c'est trop fort. Le gars, il dit à peine bonjour, il était en train de lui dire ouais, moi, je veux savoir. On n'entend pas tout, mais en gros, tout de suite, il est déjà dans la projection. Voilà, il va... quel crack. C'est vraiment un crack absolu, le gars, en fait. Le gars, il est carrément en plus très sympa. Il lui fait un câlin et tout. Tu vois, c'est du management de très haut niveau. Tu vois qu'il est content de l'avoir. Il lui dit même, je suis content que tu sois là. Tu vois, sous ces airs un peu austères comme ça, d'Espagnol des Asturies. Non, le gars, on voit qu'il c'est un crack. Franchement, c'est, t'arrives, t'es à Cliouche, t'as envie de dire, il est où le ballon? Donne-moi un truc, je vais aller presser le plot là-bas, le conscrit foot, le mannequin, c'est pas grave.
Et est-ce qu'il a fait un câlin à Lucas Digne, hein, qui a signé officiellement aujourd'hui, il portera le numéro 12.
Ouais. Et peut-être moins content de l'avoir.
Il est claqué, ce numéro!
Bah ouais, moi, à mon époque, le 12, c'était sur le banc.
Ah ouais, franchement, le 12, mais qui veut le 12 et le 13?
C'est une époque lointaine, hein. C'est une époque lointaine, voilà, les remplaçants.
Il y a
Johan Cruyff
qui a juste, il y a juste Johan Cruyff qui a réussi à...
Il y a eu Titi Henry qui avait le 12 en équipe de France.
Non, non, mais après, je disais le 14. Oui. Tu vois, aujourd'hui, le 14, c'est quand même quelque chose. Mais le 12 de Thierry Henry, on le retient pas comme le 14 de Johan Cruyff. Hein, j'adore Thierry Henry.
Il y a que des numéros 10 dans ma team ce soir. Maxime Chano et Kevin Diaz sont.
Il était 14 aimé, d'ailleurs, Thierry Henry, Arsenal, non?
Arsenal 14, mais 14. En équipe de France, ouais, 12, 14, et au Barça, non. Il était 14, Titi.
Je reste sur le 14 de Arsenal.
T'avais quel numéro, toi, Kevin?
Ah, moi, de One and Only, le 11, quoi. Numéro 11, Elie Gauche.
T'avais un numéro fétiche, toi, Max?
Le 4, ouais.
Le 4.
Avec le Brassard.
Le 4, elle est pas, à mon départ, c'était stopper, c'était bouché.
Max, il y a un numéro que je veux pas dans les 11.
C'est quoi?
C'est que le 4.
T'en as besoin.
Tu veux me donner le 2, tu veux me donner le 5. Mais pas le 4, punaise. Le 4, c'est le stopper, c'est horrible.
Le boucher.
Le 4, mais tu rajoutais le Brassard sur le bras gauche, donc ça allait, c'était mieux.
Bon, le 4, c'est
ça vous intéresse pas, mais voilà, moi, dans ma jeune carrière, en amateur. Non, je jouais avant-centre, donc je me coltinais le 4 et le 5 à chaque fois.
Ah, ouais, d'accord.
Et c'était généralement 9 fois sur 10 les deux plus costauds de l'équipe.
Oui. Bah, c'est pour ça que j'ai joué derrière.
Ouais. Et c'est pour ça que physiquement, t'es un peu plus costaud que Kevin. Alors, on parle chiffres, on va parler du 2 dans un instant, mesdames, messieurs. On va parler Ligue 2, la Ligue 2 qui a rouvert ses portes hier avec la première journée en multiplex. Vous avez été nombreux à suivre cela sur RMC. On parle donc de cette première journée et de la densité de ce championnat dans cette saison qui démarre. Ne bougez pas, l'After revient dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.